On va se le dire, Derek Blouin-Perry est rendu un habitué de Rage Against the Machine.
Un ami de show.
On trouve ça important, intéressant de jaser avec lui avant son départ et à son retour de ses missions humanitaires en Ukraine. C'est une troisième mission pour Derek. Il part demain matin pour s'y rendre. Puis là, on parlait pendant la tourne de Bad Religion à quel point c'est complexe là, le transport pour éventuellement arriver à sa destination. On va y parler de tout ça et de pourquoi il est retourné pour une troisième fois. Derek, comment ça va?
Ça va bien, Reg, toi?
Ça va super bien. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Il y a sûrement bien des choses à préparer avant de quitter pendant plusieurs semaines, là, quand même, deux mois ou presque.
Ouais, quasiment. J'avais une petite promesse de fête à la maison que j'allais être revenu pour Noël. Fait que j'atterris à Québec à Noël moins 4 minutes.
Le 23 décembre à 23h56?
C'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. En espérant qu'on prenne pas de vacances.
La promesse, tu vas la garder. Hein? Ouais, au moins, il y a ça. Tu l'as dit. Je pense, gars, je veux qu'on parle de... que tu nous racontes ce que tu nous disais pendant la toune, juste comment te rendre à ta destination, mais avant. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi, Derek? Pourquoi tu te donnes à ce point-là? Pourquoi c'est important pour toi d'y retourner pour une troisième mission humanitaire?
Oui, ben c'est une bonne question. Puis c'est un cheminement. C'est-à-dire que l'année passée, en décembre, première mission là-bas, un peu à tâtons, tu sais pas ce que tu vas trouver. Tu as des gens qui te découragent un peu en disant ben tu ne sers à rien si tu y vas, tu vas être d'ingambe à la limite. Finalement, tu arrives là-bas et tu te rends compte que les besoins sont partout, puis autant pour du travail qualifié que juste pour couper des patates. Bon, tu reviens, tu passes l'hiver, tu te rends compte que c'est quelque chose, tu retournes au printemps, un autre séjour comme ça. Et en fait, avec le temps, ce que je remarque, c'est que c'est difficile de ne pas y être. Tu sais, quand tu t'impliques dans une cause comme ça, quand tu mets de l'énergie dans quelque chose qui est aussi fondamental, tu reviens ici, tu as des gens derrière qui te racontent des choses, tu as des gens derrière qui te disent « Ouais, mon cousin a été conscrit la semaine passée, l'ont ramassé, l'ont envoyé au front. » Tu as des gens derrière qui disent « Nous autres, on amenait de l'eau et de la nourriture dans un village, puis ça a été bombardé à côté de nous autres. » L'organisme qui nous chapeaute ne veut plus qu'on y aille parce que là, ça ferait scandale s'il arrivait quelque chose. Donc, c'est un peu l'image toujours du bras dans le tordeur. Tu y vas, c'est difficile de repartir, c'est difficile d'être ici quand tu sais tout ce que tu laisses derrière, tous les gens que tu laisses derrière.
Fait que c'est émotionnellement que tu te sens impliqué énormément dans
ça fait partie de toi.
Oui, exactement. C'est vraiment un projet que tu prends au corps. Puis en tout cas, personnellement, là, j'ai hâte que cette guerre-là se termine. Mais c'est difficile de regarder sur les lignes de côté.
Mm-hmm. Tu y crois-tu que ça va se terminer?
Bien, tout le monde l'espère. La difficulté, moi, j'ai trouvé les Ukrainiens au mois de mai un peu au bout du rouleau. C'est-à-dire que les plus vaillants, les plus motivés à aller se battre sont allés. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont décédés entre-temps. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont au bout de leurs ressources aussi. Je sens pas que les Ukrainiens veulent capituler à la Russie, mais je sens que les Ukrainiens ont plus de ressources. Ils sont au bout de l'énergie qu'ils sont prêts à mettre là-dedans. Et donc, la possibilité d'une mauvaise paix devient de plus en plus effrayante là-dedans.
Réponds à la question comme tu le sens, parce qu'il y a du politique là-dedans, mais je suis curieux de voir aussi comment toi tu le vois en t'en allant là-bas. Élection américaine le 5 novembre, on sait que le résultat pourrait quand même venir impliquer ce qui se passe en Ukraine. Donald Trump qui dit « Moi, je vais régler cette guerre-là le lendemain que je vais avoir pris le pouvoir. C'est comme s'il allait caler Poutine. » Puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes un peu? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose que là-bas, ils regardent ou sont trop occupés dans leurs affaires?
Non, c'est sûr qu'il y a une grosse fébrilité, puis on le croit que Trump va caler Poutine. Il s'en est pas caché qu'il a son numéro de téléphone puis qu'il se jase à l'occasion. Ceci étant, c'est sûr qu'en Ukraine, il y a une énorme anxiété par rapport à ça parce que le soutien américain est fondamental à ce que ça continue. Mm-hmm. Du moment où les Américains disent que c'est terminé, bien, ils peuvent retirer leur aide à eux, mais ils ont le contrôle sur une grande partie de l'aide européenne aussi pour tout ce qui est des munitions, des armes qui ont des licences américaines, qui ont besoin d'une autorisation pour être partis. Alors, je m'attends à ce que le soir de l'élection en Ukraine, tout le monde regarde ça avec assis sur le bout de la chaise, sachant ce que ça peut dire. Là.
Derek, c'est ta troisième mission là-bas. Tu sais un petit peu plus à quoi t'attendre et peut-être, je me dis que la préparation, ça... Comme tu sais plus à quoi t'attendre là-bas, tu as un plan peut-être plus précis de cette troisième mission-là. Je veux juste que tu nous racontes là, un peu comment c'est complexe, long, voire compliqué pour éventuellement arriver à ta destination. Puis pourquoi tu veux aller là spécifiquement?
Oui, effectivement, c'est une belle logistique cette fois-ci. Bon, déjà, on se dira qu'il n'y a pas d'aéroport fonctionnel dans le pays. Donc, ça nuit un peu à la mobilité. Puis l'Ukraine, ça reste un énorme pays. Donc, moi, si je prends un vol de Québec avec escale et tout, je passe une nuit dans l'avion pour me rendre jusqu'en Pologne, à Cracovie. À Cracovie, ben, j'arrive en après-midi. Je vais donc passer une nuit sur place aussi. Ça me fait ensuite une nuit en autobus pour passer la frontière. La dernière fois, ce printemps,
À quel point ça, c'est compliqué? Passer la frontière puis rentrer en Ukraine?
Écoute, tu as deux pays, hein? C'est-à-dire que d'un côté, les Polonais vérifient certaines choses. Selon la situation politique là-bas, ça peut être très, très, très complexe. Pas nécessairement parce qu'ils font beaucoup de contrôles, mais parce qu'ils vont faire niaiser un peu. J'ai eu le même problème en revenant, par exemple, de Hongrie, où on a attendu 8 heures. On était le premier autobus dans le fil, puis 8 heures de temps, on s'est fait regarder par les douaniers qui ne voulaient pas nous passer. À la sortie de l'Ukraine, c'est une autre difficulté. Les hommes n'ont pas le droit de quitter le pays en bas d'un certain âge, et donc tu te ramasses à souvent être le seul dans l'autobus qui est en bas de 50 ans, et tu te fais regarder un peu comme un déserteur. Tu arrives à la douane, ils veulent vérifier que c'est un bon passeport, puis que tu n'es pas quelqu'un qui est en train de fuir le pays aussi.
Hey, c'est délicat, ça, là.
Ouais.
OK, excuse, je t'ai coupé, là. Fait que là, t'as passé les douanes, t'es rentré en Ukraine.
Ouais, donc mettons qu'on a 3 nuits de fête. Une nuit à la première ville qu'on rencontre en Ukraine, parce que ça fait encore une bonne ride d'autobus. Une nuit dans le train vers Odessa. Une nuit sur place. Un autre train de nuit, parce que je m'en vais plus loin à l'est dans le pays cette fois-ci. Donc, grosso modo, là, presque une semaine de déplacement pour m'approcher vraiment d'où ce que je m'en vais.
Puis pourquoi là-bas? Pourquoi cette place-là cette fois-ci?
C'est sûr que plus tu t'approches du front, plus c'est évident de voir les besoins que tu peux avoir. Moi, j'avais une offre là-bas pour faire de l'ambulance. Donc, je ne suis pas ambulancier de métier, mais j'ai une offre parce que j'ai quand même un background de premiers soins. Je suis premier répondant en région isolée, je suis instructeur. Donc, j'ai une offre là-bas pour y aller, mais j'ai du matériel à ramasser en chemin. Puis, le temps que ça prend pour se rendre, bon, les petits transports, puis à un moment donné, on se ramasse à quelques kilomètres du front. Il y a des petits transports aussi à ramasser qui ne sont pas des beaux trains à haute vitesse, on va se le dire.
Oui. Question de Dominique, un auditeur que je trouve super pertinente. T'as-tu peur de ne pas pouvoir revenir? T'sais, la Russie passe à l'offensive. La Russie serait avec la Corée du Nord à l'heure actuelle où il y aurait quoi? 12 000 soldats nord-coréens qui viendraient porter main forte à la Russie. T'as-tu des craintes pour ta sécurité?
Des craintes pour la sécurité, c'est sûr qu'il faut y en avoir. T'sais, jusqu'à maintenant, on a toujours été capable de revirer de bord. On a toujours été capable de sortir. Je pense que les dangers viennent de deux endroits, c'est-à-dire les travailleurs humanitaires, les ambulances, tout ce qui a rapport au médical, les pompiers, toutes ces affaires-là, c'est des cibles pour la Russie. Que tu sois à une place ou à l'autre, c'est une tactique qu'ils ont commencé à utiliser en Syrie, entre autres, faire un premier bombardement sur un bâtiment résidentiel, attendre une heure, attendre un peu que les secours arrivent, en faire une deuxième à même place, puis on vient de faire une double frappe. Alors, c'est plus là-dedans. Et quand on travaille, par exemple, à Kherson, on est à quelques kilomètres des Russes de l'autre côté. Bien, on les voit, on les entend, les drones. Il y en a autour, puis on a vu passer tout l'été des vidéos de ces drones-là qui se promènent dans un marché aux puces et qui tombent sur quelqu'un, ou tu as quelqu'un qui est en vélo en plein milieu d'un boulevard, puis ça frappe directement dessus. Donc, on est plus là-dedans, dans la limite où faut s'approcher pour aider, faut pas être trop visible, parce que si on détonne sur une caméra de quelqu'un, il y a une alerte qui allume, même si on n'est pas des soldats. T'sais, on amène de la soupe, du pain, des jouets pour les enfants, du lait maternisé.
C'est un peu de hockey, attends, comment la poser? C'est ta troisième mission, Derek. Toi, t'as, je présume, un petit peu plus de confiance parce que tu sais, comme je disais tantôt, un petit peu plus dans quoi tu t'embarques. Comme c'est ta troisième mission et t'es rendu avec plus d'expérience, est-ce que tu t'exposes à des situations plus dangereuses? Est-ce que de leur côté, on a confiance de te mettre dans des situations plus dangereuses ou des zones plus dangereuses? Tout ça pour dire, cette troisième mission-là, est-ce que ta vie est plus en danger?
C'est sûr qu'on se permet, en tout cas, je me permets plus de risques en y retournant. Tu sais, il y a une difficulté là-dedans, puis là, c'est entre moi et moi-même, là, c'est que tu peux te tenir à aller vivre dans l'ouest du pays. Tu peux faire du bénévolat là-bas, tu peux aider, tu peux être utile. Mais plus que tu te rapproches, plus que tu te rends compte qu'il y a des besoins. C'est pas une recherche d'adrénaline. C'est à un moment donné, tu es à 1 000 km des combats, c'est beau de dire oui, je peux être utile. quand tu es rendu dans une ville comme Kherson, où on faisait des livraisons, encore là, de ressources, de choses comme ça, tu le vois, les épiceries sont fermées, les bâtiments sont en ruine, il y a des longues périodes où il n'y a pas d'eau potable, l'électricité ne marche plus. C'est très concret. Tu dis, tout ce que j'ai réussi à apporter là-bas, tout ce que j'ai réussi à faire là-bas, clairement, il n'y a pas grand monde qui le font. Tu parles à d'autres organismes qui y allaient et qui ont dit, écoute, nous autres, on a arrêté, on met nos travailleurs en danger, on le fait pas. Là, tu te ramasses avec une mini-opération dans une vieille ambulance britannique, puis 3-4 bénévoles ukrainiens qui disent, écoute, moi, j'ai de la famille qui vient de là-bas, puis ils sont encore là-bas, puis ils veulent pas partir. Ben, si on organise des choses, ça va aider. Là, je me dirige, sans dire le nom de la ville, à un endroit qui est vraiment proche des lignes présentement. C'est la même chose. Il y a des organismes qui aimeraient bien ça, avoir du gros, gros, gros support. S'ils sont rendus à me prendre comme ambulancier, c'est clairement parce qu'ils grattent le fond du baril.
Oui, c'est clairement parce qu'ils manquent de ressources. Tu t'en vas justement en contexte hivernal. T'sais, on le sait, en Ukraine, on n'a pas le choix de jouer avec l'électricité un petit peu à chaque jour d'heure parce que les Russes ont frappé là, sur les installations énergétiques. Là. Tu t'attends à quoi? T'attends-tu à avoir froid? T'attends-tu à avoir de la population très malade? T'sais, avec des problèmes d'engelure, etc. T'sais, tu t'attends à quoi en tant justement comme ambulancier?
Oui, ben c'est une bonne question qu'on se pose. C'est-à-dire, au mois de mai, il y a des journées où on était 6 heures de temps sans électricité. Mais c'est beau, au mois de mai, il faisait chaud. Là.
C'est ça.
En décembre, l'année dernière, il faisait plus froid qu'ici quand j'étais là-bas. Mais l'électricité fonctionnait. Alors là, cet été, ils ont frappé d'autres centrales électriques. Ils ont encore endommagé le réseau. Je suis curieux. Il y a des endroits où je m'attends à ce qu'on n'ait simplement pas d'électricité. J'ai participé l'automne dernier à un projet où on faisait des chandelles pour chauffer des soldats dans les tranchées parce qu'ils n'avaient pas accès à autre chose comme chauffage. J'ai l'impression que ce genre de projet-là va prendre de l'ampleur cet hiver. Trouver des façons de chauffage alternatives. Les rues d'Odessa, même au mois de mai, étaient remplies de génératrices par terre, une cacophonie avec des dizaines et des dizaines de petites génératrices achetées à quincaillerie pour que les gens puissent seulement qu'avoir de la lumière. Mm-hmm. À quel point c'est fonctionnel dans un endroit qui a un hiver comparable au nôtre, ça va être quelque chose.
Est-ce que, Derek, c'est ta troisième mission humanitaire en Ukraine, est-ce que ton entourage, ta famille, est-ce qu'ils catchent pourquoi t'as ce besoin-là d'aller aider là-bas? Puis, tu sais, je vulgarise peut-être un peu, mais y a-tu du monde de ton entourage qui te disent comme, OK, mais gars, t'as donné, y a pas une cause ici au Québec qui pourrait subvenir à ce besoin-là que t'as dans toi? Ou est-ce que c'est carrément le contraire, puis tout le monde dans ton entourage, ta famille, accepte et comprenne ce besoin-là que t'as?
Écoute, je pense que tu cites mot pour mot ma maman. Là.
Ah oui? Elle m'a pas appelé, OK?
Non, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui disent « Regarde, t'as fait ta part, c'est assez, c'est ci, c'est... » Puis je comprends le raisonnement, mais revenons à ce qu'on disait tantôt, c'est difficile de dire « Tu t'impliques là-dedans, puis ah, c'est bon, j'ai fait mon petit coup. Mm. » Tu sais, si tu prends ça à cœur, si t'as donné quelque chose, puis... Tu sais, je pense, parlons-en, là, au-delà de la sécurité physique là-bas, le plus gros élément que tu perds là-bas, c'est la santé mentale.
Ouais.
Les retours sont très, très, très difficiles. Puis, bien plus que ça, je pense que pour les proches, c'est quelque chose qui a été difficile cet été au retour. C'est bien plus le switch quand tu reviens en ville comme ça, de dire, ben là, OK, il n'y a plus d'alerte aérienne sans arrêt, il n'y a plus d'explosion autour, il n'y a plus de... Tu sais, tout ce que ça implique. Moi, ça me prend quelques mois quand je reviens avant de revenir à peu près fonctionnel. C'est ça, je pense que pour les proches, c'est peut-être plus difficile. Mm-hmm. Le fait de savoir qu'en revenant la fois d'après, ça va être ça aussi, de dire, ouais. Ben écoute, ça va reprendre du temps, te remettre sur patte, là, puis tout ça. Fait que c'est plus le message que je reçois d'eux autres. Pour le reste, dans deux camps, des gens qui sont fiers et impressionnés, puis d'autres gens qui disent, écoute, arrête, là, tu cours après le trouble, puis...
Derek Blouin-Perry, tu pars pour une troisième mission humanitaire. Nous, ça nous fait tellement plaisir quand tu passes nous voir avant. Encore plus plaisir quand tu passes nous revoir après, quand tu reviens au pays sain et sauf. On le sait que tu vas revenir pour le temps des fêtes, pour Noël. Tu passes du temps avec les gens qui t'aiment. Tu prends du temps en famille, entre amis. Puis tu viens nous jaser au mois de janvier peut-être, de nous parler de cette troisième mission-là.
Ouais, on peut s'arranger pour ça.
T'es brave, cool. t'es un homme incroyablement brave, une personne courageuse et qui a le cœur sur la main. Sois sécuritaire le plus possible, s'il vous plaît. Puis on sort jase dès ton retour.
On peut faire ça. Right. Un gros merci.
Bonne mission, Derek. Merci. Red.